Hashtag 2050 le podcast, c'est votre shoot de futur. Aucun effet secondaire, juste un trip vers 2050. Je suis Rebecca Armstrong, votre dealer. Ma cam, imaginez le monde de demain. Montez à bord, installez-vous confortablement. Le futur commence ici et maintenant. Pour cet épisode de rentrée, je suis allée à la rencontre de Florian Breton. C'était le 11 juillet dernier. En 2015, il a fondé Mimosa. Il est également président de l'association La Ferme Digitale. Il vous expliquera ce dont il s'agit. Mais ce que je dois vous dire dès à présent, c'est que nous allons parler d'agriculture et d'épargne responsable. Cela veut dire parler d'amour de la terre, de transition, de lien social. Cela veut aussi dire de s'interroger sur ce que finance notre épargne aujourd'hui. Et spoiler, c'est pas beau à entendre. De se projeter vers un futur de désintermédiation de l'épargne. Et spoiler, c'est réjouissant. Mais aussi de découvrir les héros du 21e siècle. C'est aussi se demander si les crypto-monnaies feront avancer le schmilblick, d'envisager la transformation ou non des banques à l'horizon 2050, de questionner le poids des lobbies des industries fossiles, pesticides et consorts, et vu les changements climatiques, de réfléchir à comment assurer le métier d'agriculteur. Et les femmes dans tout ça? Je vous laisse découvrir cette conversation et ce futur possible, proposant quelques réponses à ces questions. Bonjour Florian.
Bonjour Rebecca.
Merci à toi de m'accueillir avec un café sur cette belle table de bois. Nous sommes à Levallois-Perret, c'est
ouais,
bien ça?
Tout à fait.
Au cinquième étage, on a une vue plutôt pas mal sur un ciel assez clair. J'aimerais que tu me parles de ce lieu.
Alors ce lieu, c'est un lieu important pour moi et pour les équipes Mimosa, puisque ce sont nos locaux tout simplement. Mm-hmm. C'est un lieu qu'on a rejoint il y a tout juste un an, puisque dans l'histoire de Mimosa, donc c'est une aventure que j'ai lancée il y a tout juste 4 ans. J'ai lancé cette initiative seule, avec deux personnes au début en stage. J'étais dans le 8e arrondissement, dans un incubateur, donc à Paris. Et puis ensuite, on a rejoint en grossissant le 11e arrondissement rue Saint-Maur. Mm-hmm. Et puis face au défi justement... de la croissance et de l'impact qu'on développe aujourd'hui pour le secteur agricole. On a déménagé il y a tout juste un an à Levallois-Perret, donc on est très heureux aujourd'hui d'y être dans un environnement qui est plutôt agréable, assez mm-hmm. ouvert, avec une équipe au top dans 300 mètres carrés.
Donc, ouais, certains donc que j'ai pu croiser.
Très fier de t'accueillir ici.
Donc vous avez commencé à 3, vous êtes une trentaine ouais. maintenant, donc ouais. Un vrai développement. Alors il faut qu'on parle un peu plus de Mimosa. Tu as parlé ouais. d'agriculture. J'aimerais que tu nous parles de l'activité, le cœur d'activité de Mimosa.
Alors le cœur d'activité de Mimosa, c'est de financer les agriculteurs et les acteurs de l'alimentation, les entrepreneurs finalement aujourd'hui qui nous nourrissent mm-hmm. quotidiennement, 3 fois par jour, matin, midi et soir, et qui aujourd'hui, au-delà de cette valeur nutritive qu'ils produisent, ils produisent aussi de la richesse territoriale, de l'ancrage, de l'identité, de la gastronomie, des choses dont on est fier et qu'il ne faut surtout pas oublier, dont on a malheureusement aujourd'hui, au gré des générations qui se détachent de la production et de l'amont et de l'agriculture, mmh. on a tendance à oublier que finalement, derrière un produit, il y a aussi une valeur sociale, environnementale, oui. et aussi des hommes et des femmes qui travaillent tous les jours pour nous nourrir en diversité, en qualité et en quantité aussi, en tout cas dans les pays développés et certainement en sous-quantité encore, malheureusement, pour les pays en voie de développement. Donc l'aventure Mimosa, je l'ai lancée il y a 4 ans. Moi, j'ai des racines agricoles du côté
de... Oui, parce que c'était la question, comment on en vient à Paris à lancer comme ça une aventure.
Petit-fils d'agriculteur, plus précisément de viticulteur dans le sud de la France, à côté de Perpignan.
D'accord.
Donc j'ai pour habitude de rappeler que j'ai vraiment baigné dans ce milieu et que j'ai grandi avec cette sensibilité, cet amour à la terre et ce profond respect pour les agriculteurs qui aujourd'hui ont un métier extrêmement complexe. Ce sont des vrais chefs d'entreprise multicasquettes qui manient, qui jouent déjà avec le vivant, qui ont une expérience agronomique très performante, qui ont pour finalement mission très noble de nourrir les populations mmh. et qui incarne aussi un secteur qui est millénaire, qui existe depuis plus de 8000 ans aujourd'hui sur notre planète. C'est le plus vieux métier du monde, et donc cet amour que j'ai eu pour cette admiration pour l'agriculture, après une première expérience professionnelle, une première vie professionnelle dans les médias, mm-hmm. j'ai eu pour souhait de m'engager pour le secteur. Alors pourquoi le financement? J'ai eu un parcours plutôt business school, mais j'étais pas non plus un expert de la finance. Mm-hmm. Mais c'est quelque chose, en tout cas, que je connaissais très bien. J'appréhendais bien les enjeux et les sujets et les outils de la finance. Et je remarquais depuis un certain nombre d'années, en tout cas si je regarde de manière un peu plus micro, bien que ce soit un grand territoire, la France, et même de manière un peu plus macro au niveau européen et au niveau mondial, il existe aujourd'hui, en tout cas pour les agriculteurs, de vraies difficultés à se faire financer, quelle que soit sa taille. Donc on a tendance à penser souvent que les grandes exploitations biberonnées par la politique agricole commune ont plutôt des facilités à se faire financer. C'était vrai, il y a encore jusqu'à 20 ans. Il y a 10 ans, ça a commencé un petit peu à se tasser. Depuis, la crise des subprimes est passée par là, pression réglementaire sur les banques, à juste titre, et difficulté à se faire financer aujourd'hui, notamment pour une profession agricole qui transite dans ses manières de produire. Ouais. On parle de l'agroécologie, on parle de l'agriculture biologique, on parle de nouvelles méthodes de financement, notamment d'élevage plein air, etc. Et même cette grande agriculture en phase de transition rencontre des difficultés à se faire financer. Donc j'ai vraiment voulu m'engager dans ce socle entrepreneurial qu'est l'agriculture pour moi, en proposant des outils de financement simples, innovants, performants, inclusif sociétalement, puisqu'on implique directement les consommateurs et on propose aux citoyens, justement, on les responsabilise en leur disant tout simplement, à travers Mimosa, devenez acteurs de votre alimentation. Financez aujourd'hui l'agriculture et l'alimentation de demain.
Et d'ailleurs, sur le site, on peut avoir une carte de la France et tout de suite cliquer sur sa région et découvrir les projets et pouvoir se dire, bah, tiens, j'ai envie que mes légumes, ils viennent de ce petit bled qui est tout près de chez moi, la viande, etc. Et d'ailleurs, une grande diversité de projets. J'ai vu des projets viticoles, d'installations sur Notre-Dame-des-Landes, par exemple.
Bien sûr.
Qu'est-ce que j'ai vu d'autre ? Des épiceries de vrac en ligne. Chèvrerie, transformation, beaucoup de conversions en bio.
Bien sûr.
Donc il y a un véritable ancrage territorial. Pour moi, c'était vraiment le terreau, le fil conducteur de tous ces
projets. Ce qui t'a frappé, cet angle territorial, il est très important, puisqu'aujourd'hui, quand on interroge nos 150 000 membres en 4 ans, c'est cette communauté de 150 000 personnes aujourd'hui, les deux principaux leitmotivs qui font qu'ils s'engagent à travers nous à financer les projets sont, un, la thématique, et deux, le local. Et c'est très, très puissant aujourd'hui, puisqu'on a différents produits, on y reviendra tout à l'heure, mais notamment dans le don avec contrepartie, plus de 75% des financements proviennent de la même région que le porteur de projet. C'est-à-dire que ce que recherchent les gens, c'est l'impact territorial aussi de son action et du financement du projet, et la création de liens sociaux aussi en proximité avec l'agriculteur, et la fierté de faire partie d'une communauté qui a accompagné, non pas au sens « pauvre agriculteur, sans nous, il n'aurait pas pu développer son projet », mais vraiment la fierté de faire partie d'une démarche entrepreneuriale, territoriale, tournée et orientée autour de l'agriculture et de l'agroalimentaire.
Et d'ailleurs, après ces 4 premières années d'expérience, est-ce que tu as un retour sur le fait que, justement, localement, les gens qui ont soutenu le projet restent de clients ou partenaires, en fait, de l'agriculteur, que ce lien persiste ?
C'est malheureusement, et ce sera un des chantiers aussi d'évolution, certainement, dans les mois et années à venir, mais on ne peut pas tracer non plus complètement à l'échelle de 100 projets aujourd'hui par mois, la suite de la communauté. En tout cas, ce qu'on se rend compte, puisqu'on interroge régulièrement nos porteurs de projets, c'est que passer par Mimosa pour un agriculteur, c'est bien plus que du financement. C'est certes le financement, parce qu'il vient nous chercher aussi pour cela. C'est de la communication, de la notoriété et du développement commercial, puisqu'aujourd'hui, en don, près de 50% des contributions proviennent de personnes qu'il ne connaît pas directement, donc des indirects, par exemple des amis d'amis, ou des inconnus. Et donc ces personnes-là sont les nouveaux clients ambassadeurs de l'exploitant agricole. Et ça, c'est vrai pour le don, mais sur le prêt, c'est encore plus
important. Oui, parce qu'il y a le don et il y a le prêt. Et ça aussi, c'est important.
Puisqu'en prêt, c'est même 95% d'inconnus qui financent un projet. Donc là, on est vraiment sur du vrai développement économique d'activité. Donc c'est pour cela que j'aime bien rappeler que c'est bien plus que du financement. Et puis, dans une période où souvent, on a tendance à opposer un petit peu l'agriculture, l'alimentation, les citoyens, c'est extrêmement bénéfique parce que souvent, ce sont des courants un peu dogmatiques et idéologiques, puisqu'en réalité, les citoyens sont très attachés à l'agriculture et aux agriculteurs, et créer du lien social aussi entre eux, qu'on ait une envie de développement commercial, ou qu'on n'en ait pas parce qu'il existe beaucoup d'agriculteurs qui sont dans des schémas de filières plutôt longues, transformées et commercialisées. Il y a un enjeu aussi d'intérêt général autour de la profession agriculteur qui est en train de se réinventer, de se transformer. Et c'est malheureusement, aujourd'hui, depuis 30 ou 40 ans, je pense qu'un des gros, une des petites critiques que je ferai au monde agricole, avec tout l'amour que j'ai pour lui et aux agriculteurs, c'est d'avoir trop externalisé et délaissé leur propre communication.
Ouais,
ils sont importants aujourd'hui à eux de se tourner vers des circuits de distribution alternatifs pour être en contact direct avec les consommateurs ou de se retourner vers des voies alternatives sur le financement aussi pour faire voir à travers une fenêtre de communication qu'ils n'ont rien à cacher, que tout le monde est le bienvenu dans son exploitation, qu'on a une belle agriculture et de beaux agriculteurs. Et c'est important aussi de passer par ces voies alternatives pour le faire savoir.
Mais oui, alors j'imagine d'ailleurs que sur la plateforme, il y a ou il y a eu des projets de magasins de producteurs.
Bien
voilà,
sûr.
Forcément,
bien
qui
sûr,
peuvent créer énormément. Justement ce lien, cette vitrine localement. Quoi.
Tout à fait, ouais. Exactement.
Alors, on a compris l'activité de Mimosa et donc finalement, on a parlé de financement. Et le thème que tu as choisi pour cette conversation, c'est l'épargne responsable.
Oui.
On va essayer d'imaginer à quoi pourrait ressembler le monde en 2050 si l'épargne responsable se développe largement ou pas. C'est toi qui me diras ce que tu as imaginé. Mais avant qu'on fasse ce bond de 30 ans, j'aimerais qu'on fasse un petit exercice de vocabulaire.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on entend par épargne responsable ?
Alors pour moi, une épargne responsable est une épargne qui s'inscrit dans les objectifs, notamment les 17 objectifs du développement durable définis par l'ONU, c'est-à-dire la lutte notamment, je ne vais pas les citer tous les objectifs, mais notamment...
Je mettrai un lien vers la liste des 17.
Contre la pauvreté, les inégalités, l'eau, la sous-nutrition. Aujourd'hui, on a quand même... Il faut quand même rappeler aujourd'hui qu'on est quand même sur notre planète quasiment 800 millions de personnes à être dans une situation de sous-nutrition et d'extrême pauvreté par rapport à l'alimentation, notamment de non-érosion des sols, d'énergie renouvelable. Donc finalement, l'ONU a bien dessiné le contour de ce que doivent être les objectifs du développement durable. Mmh. Et pour que cette épargne soit positive, il faut qu'elle s'inscrive dans cette dynamique dont l'objectif est finalement d'accompagner ses objectifs, enfin ses trajectoires jusqu'à hauteur 2030. Mmh. Et pour que cette épargne donc soit positive, il faut qu'elle s'inscrive dans cette trajectoire, donc qu'elle soit socialement et environnementalement responsable et engagée pour un monde meilleur, une planète plus juste et équitable.
Alors, les contours, pour moi, là, sont clairs. Mais si demain, je vais... parce que j'ai regardé sur Internet, toutes les banques font la pub de leur offre d'épargne responsable ou finances solidaires, etc. Si demain, j'ouvre chez une banque un livret de développement durable, est-ce que je suis assuré à 100% d'être dans l'épargne responsable, celle que tu viens de nous décrire?
Alors, malheureusement, non. Par exemple, si tu prends l'exemple du livret de développement durable qui a de très bonnes vertus, mais notamment de financer des TPE, des PME locales, voire de faire de la rénovation de bâtiments sur les territoires, clairement, on n'est pas dans les objectifs de l'ONU et que je viens de balayer rapidement. Aujourd'hui, il y a une prise de conscience sociétale assez large des citoyens qui veulent, d'une part, sous le prisme de l'alimentation, devenir acteurs, se rapprocher des producteurs, redonner du sens à la consommation alimentaire et en faire même un acte politique. Mmh. C'est très important. Mais il y a aussi une prise de conscience générale qui aussi est arrivée un peu plus récemment par la voix des scientifiques qui disent clairement qu'en 40 ans, on a perdu 60% de nos espèces animales, que aujourd'hui, 97% des scientifiques expriment assez clairement le fait que le réchauffement climatique est dû à l'activité humaine, au traité transatlantique, à plein de choses qui émergent encore malheureusement aujourd'hui. Et quand on regarde le prisme vraiment de l'épargne, aujourd'hui en France, en tout cas, on a une épargne qui est abondante.
Oui.
Bah vraiment, on a
un
pays riche d'épargne.
Voilà, c'est ça. Les Français épargnent beaucoup.
Quasiment 5 000 milliards d'euros d'épargne, dont 2 500 sur le simple produit assurance vie, qui est très plébiscité par les Français. Assurance vie qui représente à peu près le PIB de la France. Et un chiffre qui est encore plus... rageant, c'est qu'on a aujourd'hui dans ces 5 000 milliards, quasiment 450 milliards d'euros qui dorment sur des comptes courants qui ne rapportent rien du tout. Et le livret A, pendant ce temps-là, qui est à 0,75, donc en dessous de l'inflation française qui est à 2%, a des vertus aussi en termes de logements sociaux, mais apporte peu de rendement, de sens, de transparence. Et tous ces produits d'épargne dits responsables d'un point de vue offre commerciale et marketing, en réalité... Ben, si on regarde de manière un peu plus cruelle, 70% encore de l'épargne des Français servent à financer les énergies fossiles, le gaz, le charbon, le pétrole, etc. Donc des énergies qui aujourd'hui sont aussi une des sources du réchauffement climatique. Ce que nous, on propose en tout cas dans des plateformes de financement participatif et ce qu'on essaie de plébisciter aussi au niveau de l'État quand on fait un peu de lobbying, c'est aussi d'apporter... Et ça a été répercuté en partie à travers la loi Pacte, c'est aussi d'apporter de la transparence à ces produits d'épargne.
Mais oui, transparence et traçabilité.
De savoir, Rebecca, quand elle positionne un petit peu son épargne, qu'elle fasse le choix de qui elle finance, quoi elle finance. Alors, bien sûr, à l'échelle de 65 millions d'habitants, ce n'est pas 65 millions de personnes qui vont faire le choix d'un catalogue, etc. Mmh. Il y a des produits d'épargne concentrés. Mmh. Mais aujourd'hui, ils ne sont malheureusement pas encore, en dépit des discours commerciaux, orientés vers les vrais objectifs de notre planète. Mmh. Voilà.
Ouais. Alors, si on fait ce bond de 30 ans, qu'est-ce que tu entrevois comme monde avec... plutôt une vision positive ou pas, dis-moi.
Oui, moi je vois une. Je ne fais pas partie de la caste des collapsologues qui pensent que finalement tout est fini et que les futures générations vont s'appauvrir et que c'est la fin de la planète. Déjà pour une chose assez simple, c'est que la planète a vécu avant nous et elle vivra après nous. En réalité, on parle de notre espèce sur Terre. Ouais. Donc, je ne fais pas partie de la caste des, collapsologues. Je crois beaucoup et profondément en l'intelligence humaine, en la technologie pour apporter des solutions efficientes pour satisfaire les objectifs de l'ONU, mais également pour satisfaire les exigences aussi d'une planète qui n'est pas illimitée, qui a des moyens limités. Je pense profondément que les modes de consommation, les modes de déplacement, donc de logistique, de transport, etc., vont considérablement bouger dans les années et les générations à venir. Cette prise de conscience, elle est importante. Même à l'échelle d'une planète, il ne suffirait que de 3 milliards d'euros par an, de dollars par an, pour satisfaire pleinement les 17 objectifs de l'ONU. Ce n'est que 3 milliards de dollars par an. Hein, quand je vous parlais tout à l'heure, quand je te parlais
3
de...
3 milliards seulement.
3 milliards par an, c'est rien.
C'est dingue.
Ouais. Il y aurait une vraie banque du climat. Aujourd'hui, on n'aurait plus de problèmes. Néanmoins, je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'au-delà de la prise de conscience sociétale et citoyenne, il y a une vraie prise de conscience aussi politique, avec des politiques qui s'engagent sincèrement pour ces sujets-là qui sont très importants. Le sujet de l'alimentation, pour nous, il est au cœur de tout, puisque je rappelle juste quelques chiffres qui sont assez, assez éloquents. Dans les 30 prochaines années, l'agriculture mondiale devra produire, augmenter sa capacité de production de 50% pour nourrir à peu près entre 9 et 10 milliards d'êtres humains, d'âmes, sur cette planète. Chaque jour, 250 000 personnes voient le jour sur cette planète. Et en parallèle, les surfaces agricoles vont augmenter à peine de 4%. Donc, il y a quand même une équation qui est compliquée. L'agriculture est en train de se réinventer. Il ne faut pas tomber non plus dans un registre de décroissance small is beautiful et faisant des petites fermes permacoles un petit peu atomisées partout, puisque que ce soit la France, l'Europe, on a aussi une responsabilité mondiale à nourrir les populations. Et il ne faut pas se renfermer sur, sur nous-mêmes. Néanmoins, cette agriculture va... changer à grande échelle et aussi il faut préserver aussi les tensions qu'on pourrait avoir à la fois d'un point de vue religieux, mais c'est un enregistre, mais aussi d'un point de vue alimentaire, puisque souvent des conflits émergent sur un souci d'alimentation. Donc l'agriculture va augmenter ses rendements. Maintenant, ce ne sera plus l'agriculture telle qu'on la connaît aujourd'hui, qui est l'héritage de la révolution verte depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est une agriculture qui va devenir très agroécologique, qui va assumer de faire des rotations plus longues, un mélange des cultures, qui va stocker du carbone, qui va produire de la biodiversité et la consommer, il faut consommer de la biodiversité, et qui va produire des énergies renouvelables. Et ça, c'est important, puisque quand on se projette aussi sur les grands enjeux du 21e siècle, selon moi, il y a le climat, l'environnement et l'alimentation. Et tout ceci est incarné par une seule profession, c'est l'agriculteur. L'agriculteur sera, selon moi, le héros du 21e siècle. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui... La mauvaise nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, il est seulement dépendant de son premier business model, qui est de produire de l'alimentation, et que demain, il sera dépendant d'un business model diversifié, puisqu'il va aussi produire de la biodiversité et être rémunéré pour, stocker du carbone et être rémunéré pour, produire des énergies renouvelables avec la méthanisation du solaire et de l'éolien, et il sera rémunéré pour, ce qui rendra un peu plus bankable aussi le, l'angle et le métier d'agriculteur qui se transforme aujourd'hui.
Ouais. Et pour faire fonctionner cette dynamique que tu décris pour 2050, est-ce que ce qui fera territoire et lien entre les habitants dans 30 ans, c'est que les habitants qui seront dans un rayon de 20 ou 30 km, peu importe, autour d'une exploitation agricole, en seront en quelque sorte actionnaires directs par le biais de l'épargne responsable et qui permettra justement de consolider, de donner l'assise suffisante aussi, d'avoir la clientèle, les débouchés, les filières solide.
Je crois beaucoup en... Contrairement à pas mal d'études, je vois se dessiner quand même une grande urbanisation, c'est évident, mais je crois beaucoup en retour quand même à la décentralisation et au retour des territoires. Beaucoup de signaux l'indiquent, notamment dans des pays comme la France qui sont très attachés à la ruralité. Je crois beaucoup en l'économie circulaire parce qu'elle est bénéfique à la fois financièrement que d'un point de vue consommation alimentaire, que traitement des déchets, des eaux, etc. Je pense en effet que d'un point de vue très local, émergeront les solutions nationales et internationales et donc mondiales. De ce fait, je crois assez peu au fait que les citoyens territoriaux deviendront actionnaires d'exploitations agricoles ou directement actionnaires de sociétés PME, TPE territoriales. Par contre, je crois beaucoup au fait qu'il y aura d'une certaine manière, même si ça peut effrayer ou pas satisfaire les acteurs traditionnels, une désintermédiation de l'épargne au sens où il existera, peut-être par la voie du crowdfunding qui va se développer, qui se développe beaucoup aujourd'hui, ou par la voie de plateformes inventées ou créées par des banques traditionnelles, une désintermédiation de la gestion de l'épargne et vraiment le choix fait par les citoyens de financer tel ou tel projet. Il y aura toujours des produits structurés, mais la désintermédiation de l'épargne, elle est évidente aujourd'hui, selon moi, elle va dans le sens de l'histoire.
Alors, c'est intéressant cette question de circuit court aussi, finalement,
oui,
en quelque
bien
sorte.
Sûr,
aussi
c'est dans, ce que je dis souvent, on voilà, fait du circuit court financier.
Du
quoi,
financement. Hein. Est-ce que tout le développement des crypto-monnaies, alors quand Facebook parle du Libra, on a le Bitcoin, mais il y en a d'autres, est-ce que ces technologies, qui vont sans doute, j'imagine, continuer à se développer, vont être des supports intéressants pour construire ces circuits courts, ou finalement, ça pourrait n'être que du gadget?
Alors déjà, il y a pas mal de choses derrière ces outils-là. Déjà, c'est assez peu réglementé aujourd'hui. Et quand on regarde vraiment ces outils-là, ils sont très consommateurs d'énergie.
Ça, c'est clair. Ouais.
Et dans une ambiance aujourd'hui où on se pose la question aussi du social qui est désastreux dans ces monnaies et de l'environnemental, selon moi, sauf à se réinventer et avoir une approche plus territoriale et locale, elles n'ont pas grand avenir. Quoi, voilà. Après, deuxième sujet, c'est le sujet des GAFA aujourd'hui qui peuvent se positionner sur ces sujets-là. Il va falloir à un moment donné, c'est vrai aussi pour l'agriculture, se poser la question aussi de la souveraineté de la gestion de données. Aujourd'hui, tel que l'exprime Facebook, c'est toujours très centralisé sur Facebook. Donc, selon moi, il va y avoir quand même une grande réglementation aussi, une harmonisation des règles au niveau mondial. C'est ce que j'appelle aussi aujourd'hui parce que c'est encore un peu trop le bordel et on voit très bien les actions néfastes que cela produit. Et quand je dis que c'est d'autant vrai, c'est aussi vrai pour l'agriculture, c'est que moi, aujourd'hui, j'ai une deuxième casquette. Je suis aussi président d'une association qui s'appelle La Ferme Digitale. Qui regroupe, tu ne le savais peut-être pas, mais une quarantaine de membres start-up qui sont dédiés à l'agriculture. Et un des messages qu'on essaie de faire passer aussi, c'est qu'aujourd'hui, il y a un vrai danger. On ne peut pas parler de souveraineté alimentaire en France ou en Europe si on ne parle pas aussi de souveraineté dans l'utilisation des données. Malheureusement, par manque d'innovation ou d'investissement en France ou à l'échelle européenne dans les innovations agricoles et dans nos start-up, on condamne dans les années à venir nos agriculteurs, et c'est déjà vrai aujourd'hui, à consommer des tracteurs provenant des États-Unis ou autres qui collectent et qui envoient de la data directement aux États-Unis. Donc, on est plus souverain sur la gestion de ces data qui sont vendues à des semenciers, producteurs de pesticides, etc., ouais, et qui allouent ensuite les bonnes solutions sur des bonnes exploitations. Mais malheureusement, on est dépossédé aussi de toute la production de data réalisée par les producteurs, les agriculteurs aujourd'hui, sur des très grandes surfaces, puisque quand même 54% de notre sol aujourd'hui est consacré à l'agriculture. Donc, c'est quand même la moitié du territoire national dont les data partent à l'étranger.
Tu vois, ça, c'est quelque chose que je ne voyais pas du tout, cette question des données avec tous les outils numériques utilisés aujourd'hui
bien
par
sûr.
Les agriculteurs. Ouais, c'est quelque chose que je ne voyais pas. Pour en revenir à la question plus financière de ce monde en 2050 que tu décris, pour atteindre cette vision, ce futur possible, qu'est-ce qu'on va faire des banques?
Ben, les banques,
est-ce qu'il va falloir
moi,
qu'elles changent complètement, que le
selon
système...
Moi, les produits déjà vont se développer, produits Livret A, tu vois, un indicateur qui est sympa. Si aujourd'hui tu ouvres ton compte Livret A à 0,75% durant ta première année de vie, tu mets 10 euros dessus. Mm. Pour espérer atteindre 20, il faut que tu vives 95 ans. Quoi.
Voilà. C'est beau.
Sympa. Donc, je pense quand même que même si les Français ont une certaine aversion au risque, contrairement à des cultures plus anglo-saxons, États-Unis, UK, je crois quand même que le mindset des Français va considérablement évoluer. Alors, pour répondre à ta question, ce n'est pas le grand soir pour les banques. Hein. Mm-hmm. Les banques sont en train de se réinventer. Et vont se réinventer dans les années à venir. Mais si elles ne changent pas, c'est presque le grand soir. Selon moi, il va y avoir une profonde mutation du secteur. On voit très bien que beaucoup d'arrogance s'est dessinée autour des taxis, autour des réseaux sociaux, autour de l'hôtellerie. Et ces grands mastodontes un peu arrogants se sont laissés dépasser par une vague qui les a submergés au gré des années avec des actions des boîtes comme Airbnb dans l'économie collaborative, le covoiturage avec Blablacar, etc. Donc on a en plus des belles boîtes françaises qui s'expriment sur l'économie collaborative à l'échelle mondiale. Et je pense que la prochaine, le gros vertical qui est déjà attaqué par les néobanques, ce sont les banques. Donc elles vont devoir se réinventer. Et aujourd'hui, je pense que ce qui permettrait à des banques aussi de se diversifier et d'accélérer leur développement, c'est de mieux travailler avec des acteurs comme nous, qui sont beaucoup plus agiles, de ne pas hésiter à partager des plans de financement pour trouver une complémentarité, d'impliquer leurs banques privées qui, justement, sont en contact avec des épargnants à fort potentiel pour impliquer cette épargne directement vers une épargne transparente, utile et positive vers les projets sélectionnés, voire co-sélectionnés entre les banques et les plateformes de financement participatif. Et c'est l'avenir, selon moi, un des prismes, en tout cas, de l'avenir des banques traditionnelles. Mmh. Aujourd'hui, 60% des Français désirent financer des projets à impact positif. Et en même temps, 91% d'entre eux disent « jamais mon conseiller bancaire ne m'en a proposé ».
Oui, voilà, c'est
donc,
ça.
Donc, il y a une demande sociétale, comme dans les consommateurs qui veulent plus de bio en alimentation. Et de l'autre part, une demande qui n'est pas satisfaite par les acteurs dont c'est le métier, c'est-à-dire les banques, les assureurs, les mutuelles, les conseillers en investissement financier, qui ne répondent pas à la fois à la trajectoire cahier des charges ONU et en plus de cela, qui ne répondent pas aux exigences et aux demandes des consommateurs.
Alors, ils ne répondent pas à cette demande. J'en reviens à un chiffre que tu disais tout à l'heure. 70% de l'épargne des Français va sur les industries fossiles qui, elles, ont tout intérêt à ce que les choses tournent comme ça, puisqu'on peut tracer des liens très directs entre industries fossiles, donc pétrochimie, évidemment, pesticides et compagnie. Enfin, voilà, tout ça, c'est un peu un même club de lien en lien. Et donc, on revient à l'agriculture, ils ont tout intérêt à ce que les choses restent en l'état, que ce soit sur les datas, sur le financement. Donc, qu'est-ce qui va faire qu'on va pouvoir basculer
Le déclic. Ben, le déclic, malheureusement, tu sais, c'est souvent comme ça arrive souvent dans l'histoire de l'humanité. C'est qu'à un moment donné, on est au pied du mur. Hein. Ça a été vrai lors du déclenchement et des fins de guerre aussi. On est au pied du mur et finalement, on a le choix entre la fin ou réinventer un petit peu le paradigme. Quoi.
Ouais.
Et je crois que aujourd'hui on a des signaux quand même qui sont assez forts, notamment d'un point de vue réchauffement climatique. Ouais. Voilà, fin juin, il a fait quand même plus de 40 degrés à Paris, à Londres, c'est inquiétant.
Ouais.
Alors certains diront qu'il fait chaud l'été et froid l'hiver, c'est normal, mais bon, quand même, fin juin, c'est un indicateur qui est important. On sait aujourd'hui que une planète a plus 2, voire 3 degrés n'est plus assurable aussi par des assureurs dont c'est le métier, et donc finalement interconnecté au monde bancaire. Et je pense quand même que, contraint et forcé, mais aussi par du management et un leadership interne qui se réinvente, tous ces acteurs-là vont se réinventer dans les années à venir. C'est pour ça que je dis que je ne fais pas partie de la caste des collapsologues. C'est que je crois quand même beaucoup en l'humanité, aux hommes et aux femmes aujourd'hui qui vont réussir à dessiner cet avenir meilleur pour tous, dont les acteurs de la pétrochimie, dont les acteurs de la chimie pharmaceutique et des produits phytosanitaires, qui ont eu leur part d'histoire, puisqu'il ne faut pas tout jeter. À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, la première mission, c'était vraiment, et nos grands-parents étaient au ticket de rationnement, il fallait nourrir les populations puisqu'on ne mangeait pas de faim. Et à ce titre, la révolution verte a fait le job. Maintenant, on est au bout d'une histoire. Il faut redessiner les contours de notre agriculture et de notre alimentation. Et je crois que cette responsabilité, elle ne doit pas peser que sur les politiques parce qu'il ne faut surtout pas tout attendre d'eux. Pas non plus que sur l'industrie capitalistique mondiale, mais aussi, je pense que c'est important aussi que les citoyens soient responsabilisés sur ça. Et sur le sujet de l'alimentation, c'est criant, quoi, le paradoxe qui existe
aujourd'hui. Et puis en plus, c'est sans doute un sujet, même s'il y a encore beaucoup à faire, assez facile de sensibiliser, parce que manger, c'est quelque chose
bien
de
sûr.
Très concret, qu'on fait plusieurs
Exactement.
Fois par jour.
Mais on vit des paradoxes incroyables sur l'alimentation, c'est-à-dire qu'on veut... on veut du plus sain, du plus bio et du plus local, mais en même temps, on ne veut pas forcément payer le prix aussi. Alors bien évidemment, quand on a une approche plus mass market et qu'on ne parle pas qu'à un écosystème parisien ou dans des grandes villes, CSP, moyen plus, qui ont les moyens, si tu veux, d'accéder aussi à une alimentation.
Oui, l'écologie est une affaire de riches, on revient à ça.
L'alimentation saine et durable pour tous, elle a certes un prix, mais elle doit être accessible auprès de toutes les populations. On a quand même aussi aujourd'hui en France 8 ou 9 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Il faut aussi leur donner une alimentation saine, de qualité et diversifiée. Donc ce paradoxe, il est important puisque... En fait, ce qu'il faut regarder, c'est aussi le poids de l'alimentation dans le budget des ménages qui s'est effondré depuis 30 ans jusqu'à représenter aujourd'hui 12%. Donc, où sont nos priorités? Est-ce que c'est toujours dans le loisir, le nouvel ordinateur, le nouveau portable, la nouvelle bagnole,
Donc, ça veut dire qu'il faut aussi jouer
Ou est-ce qu'il faut arbitrer un peu différemment les fournisseurs d'accès Internet? Enfin, aujourd'hui, on investit beaucoup dans plein d'autres choses qui peuvent être en même temps, quelquefois, secondaires par rapport au sujet de la qualité alimentaire et des bénéfices de cette dernière. Donc, on veut du bio, mais en même temps, comme on n'est pas souverain, on importe 30% de la consommation bio. On importe 60% dans les fruits et légumes.
Cette année, c'est la première année que la France importe plus de produits agroalimentaires qu'elle n'en exporte.
La France vient de passer 7e producteur mondial en agriculture. C'est un symbole, on était encore 5e. Et bien évidemment qu'on n'avait pas une balance négative sur l'agroalimentaire, c'est historique depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est aussi, on rentre dans d'autres sujets, mais c'est aussi des sujets très politiques, les États membres, la fiscalité, la compétitivité des exploitations françaises. On s'alarme devant des fermes de 1000 vaches, mais les Allemands sont à 50 000 et personne ne dit rien. Et pour autant, ça crée des gains de compétitivité juste à nos portes. Donc, d'une certaine manière, est-ce qu'il faut taxer, est-ce qu'il faut protéger, est-ce qu'il faut réguler, est-ce qu'il faut harmoniser? Il y a des vrais sujets qui sont plutôt d'ordre politique, puisqu'on importe aussi des produits qui utilisent des substances qui sont interdites en France et en Europe. Et pour autant, les Français ne le savent pas. Ils consomment, ils disent c'est bio, c'est Pérou, c'est quinoa, c'est génial.
Donc, on revient à cette notion de transparence.
De transparence,
que tu évoquais tout à l'heure. Alors, il y a un mot que tu as prononcé, auquel je n'avais pas pensé, mais qui me paraît important, c'est la question des assurances.
Ouais.
Parce qu'on est en plein aussi dans les questions de financement.
Bien sûr.
Avec le réchauffement climatique, tu l'as dit, on en voit déjà des signes forts. Encore au printemps et tout récemment, on a vu des agriculteurs qui ont perdu toute leur production de l'année à cause d'intempéries, soit sécheresse, soit grêle, etc. C'est un métier dont l'assurance va être de plus en plus complexe.
Bien sûr.
Qui sont les assureurs qui vont prendre le risque pour les 30 ans à venir d'assurer ce métier? Et est-ce que l'épargne responsable peut aussi... poser la question
de contre-garantir ou assurer des exploitations.
Alors
aujourd'hui, ça n'existe pas, c'est une bonne idée. Il existe des initiatives aussi d'assurance ou de contre-garantie. Pas plus tard qu'avant-hier, j'ai une boîte qui m'a sollicité pour essayer de créer une forme de partenariat de contre-garantie aux côtés plutôt sous l'angle de l'emprunt, mais moins de l'assurantiel. Le métier d'assureur va aussi profondément changer, comme tu le rappelles, avec le réchauffement climatique, entre autres. Donc, on voit germer aussi un certain nombre de technos aujourd'hui qui apparaissent. Donc là, je reprends ma casquette plutôt ferme digitale, qui crée des ombrières aussi sur les exploitations, mais à 4 ou 5 mètres de hauteur pour laisser passer tout de même les tracteurs, puisqu'il y a quand même une contrainte aussi de travail sur les exploitations agricoles, d'ombrières qui savent à la fois produire des énergies renouvelables, solaires, et puis protéger aussi... typiquement dans le sud de la France où il y a eu une sécheresse et donc même des vignes qui ont été brûlées par le soleil. Donc le métier va se réinventer et aujourd'hui je pense que le métier se dessine aussi vers une meilleure gestion et utilisation des data, donc big data. Il existe des solutions aujourd'hui en France comme API Agro, etc. qui se lancent dans ça, qui sont aussi portées par l'État, les chambres d'agriculture, et des établissements même d'ingénieurs qui portent ces sujets-là pour apporter la meilleure assurance sur la meilleure exploitation. Donc c'est un peu comme l'agriculture de précision où tu as des drones et des capteurs un peu partout qui te permettent désormais d'avoir un traitement qui est plus localisé et un usage des produits phytosanitaires plus en ordre pompier. Quoi. Mm-hmm. Il y a un incendie, je traite.
Ouais.
Par contre, moins d'épandage à grande échelle sur toutes les exploitations. Et cette agriculture de précision viendra, de cette agriculture de précision viendra aussi l'assurance de précision, mm-hmm. l'assurance récolte, l'assurance climatique, ouais. Qui sont aujourd'hui des choses extrêmement importantes. L'assurance récolte vient compenser aussi une volatilité des prix à l'international, voilà, mm-hmm. sur le blé, etc. L'assurance climatique, c'est un peu nouveau aujourd'hui ouais, à appréhender ouais. par les assureurs et, ouais. et c'est à la fois complexe et ça fait peur. Quoi.
Mm-hmm. Et alors pour voilà. le coup, j'avais participé à un forum de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire sur la résilience des territoires. Et il y avait ouais. tout un sujet justement sur l'assurance climatique et ils sont en train d'expérimenter dans deux, trois pays des dispositifs comme ça et
Bien
ça
sûr.
A l'air d'être plutôt prometteur. Mais après, voilà, faut le
ouais.
financer.
Faut le financer. Faut le financer. Bon, les assureurs ont les moyens de le financer, mais c'est des nouveaux métiers aussi qui se dessinent. C'est beaucoup de data science, de machine learning, de gestion de big data. Faut se brancher au bon capteur, au bon satellite. C'est des nouveaux métiers aussi qui se dessinent et qui. Mais je pense quand même que l'assurance va bien évoluer. De toute façon, elle s'adapte aussi à tout cela.
Ouais.
Je ne vais pas citer des marques et des noms, mais je sais notamment qu'il y a un acteur aujourd'hui qui s'est lancé dans l'assurance climat et qui expérimente des choses assez formidables qui peuvent être très bénéfiques pour les agriculteurs. Quoi.
Ouais.
Voilà.
Alors, ce que j'aime bien dans ta vision de 2050, c'est à la fois quelque chose qui est très local, très humain, beaucoup de liens à l'échelle de territoire, mais sans nier tous les apports technologiques qui vont se développer et c'est vrai que des fois on peut mettre l'un contre l'autre, le territoire, le lien, l'humain.
Ouais, bien sûr.
Et donc là ça trace
C'est un petit peu aussi la synthèse de Mimosa, c'est-à-dire qu'on est à la fois une fintech très technologique, on a quand même aujourd'hui plusieurs développeurs dans l'équipe et on se doit d'apporter la meilleure expérience client pour les financeurs et les porteurs de projets pour que ça reste simple, rapide, inclusif. Tu vois, on a des produits aujourd'hui qui nous permettent de financer jusqu'à 1 million d'euros. On a des financements régulièrement. Il y a quelques semaines, on a financé un projet en Corrèze avec 60 emplois à la clé, 400 000 euros, 15 jours. C'est révolutionnaire pour des agriculteurs qui ont des habitudes souvent à 3, 4, 5 mois de process avant d'avoir un emprunt. Donc ça, c'est révolutionnaire. Donc on est à la fois très techno, très fintech. Et en même temps, on est très virtuel au service du réel. Quoi. C'est-à-dire que derrière, on finance des agriculteurs, des familles. Un agriculteur, c'est 7 emplois non délocalisables sur un territoire, souvent, entre ses fournisseurs, distributeurs, sa COP, les chambres d'agriculture, les réseaux d'accompagnement comme Serre France, etc. Donc, c'est vraiment une dimension qui est à la fois virtuelle et nationale, voire internationale parce qu'on est en Belgique, mais très ancrée dans les territoires puisqu'on on crée des dynamiques territoriales très puissantes aujourd'hui autour de l'agriculture et de notre alimentation.
Alors, tu parlais d'inclusif, ça m'appelle une question. Dans les porteurs de projets qui sont accompagnés par Mimosa, est-ce qu'il y a autant de porteurs de projets femmes qu'hommes ? Est-ce que tu as une idée comme ça ?
Bien sûr que j'ai une idée. Alors, il y a, si tu veux, quelques indicateurs sociaux. Ce qui est intéressant, c'est que, alors déjà, sur cette question-là, 55% des porteurs de projets chez nous sont des porteuses de projets.
Cool,
voilà. Donc, il y a une légère surreprésentation des femmes sur Mimosa. Alors que, je le rappelle, en agriculture, c'est à peu près un tiers femmes et deux tiers hommes. Mm-hmm. Et encore, il y a une grande féminisation de l'agriculture, notamment dans certaines filières comme la viticulture. Mm-hmm. Et c'est très bénéfique pour l'agriculture française, puisque c'est une vision nouvelle aussi, très tournée vers la société, avec, je trouve, un talent de communication qui est important, qui ne subit pas l'héritage et la lourdeur de l'historique de l'agriculture, avec tatoué au bras gauche une banque, à droite une assurance, qui a envie de faire autrement. Par contre, la version plus cruelle de cet indicateur, c'est que dans un secteur qui est encore très masculin, elles rencontrent souvent plus de difficultés à se faire financer. Et donc, elles se tournent plus facilement
vers des solutions
alternatives qui viennent compléter des voies traditionnelles, mais souvent cela.
Donc, après, on a donné des chantiers pour les banques, il y a aussi celui-là, d'accompagner
ouais, bien
plus les femmes.
Bien sûr. Après, derrière, dans d'autres critères, tu vois, on a à peu près 60% de nos porteurs de projets qui ont moins de 40 ans.
D'accord.
Mais ça veut quand même dire qu'il y en a 40% qui ont plus de 40 ans. On sait qu'un tiers des agriculteurs demain, dans les 3 prochaines années, vont partir à la retraite. En tant que citoyen, moi, ça me pose un problème parce que ça m'inquiète, ça crée de l'anxiété. En tant qu'entrepreneur dans la tech agricole, c'est une vraie opportunité de marché puisque les nouvelles générations sont totalement différentes en termes d'état d'esprit. Voilà. Mais en tout cas, y a vraiment, on adresse des produits et des profils qui sont très diversifié aujourd'hui, et c'est, je pense, une des grandes réussites de notre plateforme, on n'est pas rentré dans un angle très idéologique, clivant, opposant sur les méthodes et les pratiques. On est plutôt dans des démarches de progrès et de transition au sens large. Les moins gentils d'hier seront, selon moi, aussi les bons de demain. Il est important, si on veut avoir une échelle d'impact très importante, de pouvoir et de savoir travailler aussi avec les gros qui ont fait le monde d'hier pour les conduire et essayer de les influencer vers le monde de demain.
Je suis d'accord sur cette vision. On ne peut pas être dans le noir et blanc ou le clivage. Il faut accompagner une transition doit concerner tout le monde. Quoi. Oui. Petit à petit, chacun à son rythme.
Exactement.
Pour conclure, Florian, il te reste à formuler un vœu pour 2050.
Oula, c'est compliqué. Mon vœu, il va se dessiner forcément autour de l'alimentation. Je souhaite vraiment qu'en 2050, l'ensemble des populations sur cette planète aient accès à une alimentation saine, de qualité et diversifiée. Le deuxième vœu que je souhaite, c'est que les agriculteurs, pour ce faire, soient vraiment les héros de ce siècle qui s'ouvre à nous, puisque on traverse encore aujourd'hui une période compliquée dans la profession. Il y a des souffrances territoriales qui sont profondes et ils ne le méritent pas. Et j'espère qu'à juste titre, ils seront aussi valorisés pour tous ces bienfaits, en tout cas pour rejoindre le vœu alimentaire qu'ils vont produire.
Très bien. Merci beaucoup, Florian.
Merci.
Afin que vous puissiez aller plus loin sur ce sujet de l'épargne responsable, je vous propose quelques nombreux liens de documentation, notamment pour retrouver un certain nombre de données chiffrées abordées par Florian. Je commence avec le baromètre de la finance solidaire, édité par Finansol, la présentation des 17 objectifs de développement durable de l'ONU. J'en profite ici pour préciser que s'agissant des 3 milliards d'investissements par an pour atteindre l'objectif de développement durable d'éradication de la faim dans le monde, ce montant correspond au déficit annuel du programme alimentaire mondial et non à un chiffre global. Je poursuis avec une synthèse sur l'état de l'épargne des Français réalisée par lafinancepourtous.com, également des données de l'INSEE sur la pauvreté en France. Un rapport sur les investissements de la Caisse des dépôts, désormais appelée la Banque des territoires, sur ses investissements en matière d'énergie fossile. Un rapport réalisé par le mouvement international 350.org et l'Observatoire des multinationales. Quelques infos aussi sur la question de l'assurance climatique par la Banque mondiale. Voilà, si vous voulez réagir à cet épisode, il y a les réseaux sociaux évidemment, mais aussi désormais mon répondeur qui se trouve sur mon site. Je vous mets le lien bien évidemment. N'hésitez surtout pas à me faire entendre votre voix pour que la conversation s'engage aussi entre nous. Encouragez vos proches à découvrir le podcast et à s'abonner sur Ocha, mais aussi sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou via toutes les applications, ou presque. Merci de votre écoute, on se retrouve très vite, et d'ici là, soyons toujours curieux.